Vous écoutez Graphite, il est 8h30 et c'est l'heure du journal avec Oran Loz.
Bonjour à toutes et à tous. Le niveau des réserves de sang est toujours dans un état critique. Pendant la crise sanitaire, de moins en moins de Français ont donné leur sang. Conséquence, aujourd'hui les réserves sont en dessous du seuil de sécurité dans l'Oise. Une collecte est organisée demain à Compiègne, 2 rue de la Surveillance, sur rendez-vous au 03 44 85 25 08. 03 44 85 25 08. Pour plus d'informations, contactez la municipalité. Si vous habitez Margny-les-Compiègne, vous avez déjà peut-être voté. Depuis le 12 mars et jusqu'à dimanche, les Magnotins sont appelés à voter pour les projets qui leur plaisent le plus, parmi ceux présentés par d'autres citoyens dans le cadre du budget participatif. Pour en savoir plus sur cette initiative, nous avons rencontré Nicolas Falampin, chargé de mission du budget participatif de Margny-les-Compiègne. Bonjour Nicolas Falampin. Pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif, en gros, un budget participatif, c'est une partie du budget municipal dédiée à l'investissement. Des citoyens proposent des projets et d'autres votent pour ceux qui leur plaisent le plus. C'est un dispositif qui est assez récent en France puisque c'est la mairie de Paris qui a créé son premier budget participatif en 2014. Et aujourd'hui, plusieurs villes ont suivi, dont Margny-les-Compiègne. D'où vient l'origine du budget participatif à Margny ?
En fait, l'idée a émergé en 2019 suite aux grands débats qui ont été organisés à Margny. Donc, vous savez, avec la crise des Gilets jaunes, le président Macron a demandé à ce que dans les communes, on fasse des grands débats. Et donc, à Margny, Michel Pernaud-Dubreuil, donc, qui est l'élu en charge du développement durable et du budget participatif, a proposé à M. Elal, le maire de Margny, d'organiser des grands débats. Et donc, ça a donné lieu à deux soirées début 2019. Où les habitants ont pu exprimer leurs attentes, leurs envies, qu'est-ce qu'ils voudraient, notamment dans le cadre du développement durable, qui était l'un des quatre grands axes du tout ça. Et donc, en fait, quand on a fait la restitution, on s'est rendu compte qu'effectivement, les attentes des habitants portaient vraiment sur le développement durable et la participation citoyenne. C'est ce qu'ils attendaient à Margny, c'est ce qu'ils voulaient voir se développer, donc avoir une politique environnementale plus forte et avoir plus de prise sur les décisions qui étaient prises. Et donc c'est pour ça qu'a émergé cette idée donc de travailler sur cet aspect et que Michel Pernaud-Dubreuil a rejoint Bernard Hélal en tant qu'adjoint dédié à ces questions.
Est-ce que vous voulez nous expliquer c'est quoi l'objectif qu'il y a derrière la création d'un budget participatif ?
Nous, à Margny, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait redonner du pouvoir aux habitants, leur redonner l'habitude de participer à la vie commune. On a un slogan pour ça, c'est de faire de la commune notre affaire commune. Et donc c'est vraiment c'est un but pédagogique, se dire je suis pas seulement usager de la ville, je suis pas seulement consommateur de ses services, je peux produire quelque chose, je peux apporter à la ville en m'impliquant plus concrètement, en apportant des idées, en contribuant à les réaliser, et du coup c'est en leur donnant une partie du pouvoir qui est celui du conseil municipal pour améliorer le cadre de vie commun.
N'importe quel citoyen peut proposer une idée ?
Oui, c'est ça. Nous, il y a plusieurs critères. On a ouvert le budget participatif déjà à tous les Margnotins de moins de 15 ans, mais aussi aux personnes morales, donc entreprises et associations installées à Margny, et aussi aux agents municipaux, même s'ils n'habitent pas à Margny, parce qu'eux, ils contribuent déjà concrètement au cadre commun de Margny. On s'est dit que c'est intéressant de les associer à la démarche. On avait déjà organisé une édition donc l'an dernier qui avait commencé en janvier 2021 avec un vote en mai 2021. Et donc là, la plupart des projets ont déjà été réalisés, mais en fait on a décidé de ne pas rester sur le même timing que l'an dernier. Et c'était aussi pour des raisons budgétaires et logistiques. C'était plus pratique de redémarrer en octobre. Comme ça, on fait le vote en mars et on a toute l'année pour les réaliser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des raisons budgétaires qui font que c'est plus pratique comme ça.
Cette année, il y a 21 propositions qui sont sur la table, qui coûtent plus de 300 000 euros, mais vous avez un budget de 150 000 euros, d'où le vote. Elles sont réparties en 4 domaines, la végétalisation, le cadre de vie, les mobilités durables et la réduction des déchets. Est-ce que vous voulez bien justement nous parler de ces 21 propositions ?
Oui, alors d'abord, il faut revenir sur un point, c'est que les projets du budget participatif ne sont pas des projets portés par la mairie. Et c'est ça qui est important de se rappeler, c'est en fait Et d'ailleurs, c'est un point qui contribue, pour revenir sur votre question précédente, la plupart des habitants nous disent « Mais pourquoi la mairie ne fait pas ça ?» Et en fait, la mairie ne fait pas ça parce que la mairie n'a pas l'idée qu'elle doit faire ça. Et le secret dans les communes, dans les collectivités locales, c'est que n'importe qui peut aller voir un conseiller municipal, le maire, et lui dire « Il y a ça qui ne va pas, il faudrait le changer. » Et en fait, c'est ce qu'on attend, parce qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qui ne va pas. Les habitants ont une expertise d'usage, et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant pour résoudre la plupart des problèmes du quotidien qui peuvent être simplement résolus en disant « il y a un problème ». Et ça, la plupart des gens ne savent pas dire « il y a un problème », ils savent plutôt râler parce qu'il y a un problème. Donc ça va être des projets qui vont être très, très divers. Donc la réduction des sujets sur des corbeilles pour améliorer le tri à la sortie de la gare ou améliorer le tri au cimetière. Si beaucoup de projets sur les espaces verts pour mettre de la verdure là où il n'y en a pas, donc de rues où il n'y a pas d'arbres parce qu'elles sont trop étroites ou pas bien conçu pour ça, et donc les habitants se sont dit on va créer des îlots qui vont permettre de faire de profiter des chicanes ou des stationnements pour mettre des stationnements. Mais alors, l'idée quand même c'est d'essayer de le faire sans réduire le stationnement. L'an dernier on l'avait déjà fait à la rue de la Victoire suite à l'un des projets qui avait été retenu. On avait quand même dû supprimer deux plages de stationnement pour installer une dizaine d'îlots végétalisés. En contrepartie, et ils servaient aussi de chicanes, donc ça permet aussi de réduire la vitesse et donc aussi vraiment d'améliorer le ressenti des habitants par rapport à leur rue. On a par exemple aussi un projet d'aménagement d'une coulée verte entre deux rues, donc en fait c'est des allées qui sont à l'abandon depuis plusieurs années et on ne savait pas trop quoi en faire, et un habitant a dit en fait on pourrait y planter quelque chose, en faire un espace de rencontre un peu plus sympa. Voilà, on a aussi des idées vraiment sur le cadre de vie un peu général, donc c'est un mélange entre loisirs et équipement de convivialité, avec par exemple ce projet de chalet pour faire des animations, des ventes en circuit court dans le parc de la mairie.
Ça d'ailleurs, c'est un projet que vous portez, vous.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'avais vu dans une précédente collectivité où je travaillais, et ça fonctionnait très bien, vraiment pour se dire, les producteurs locaux viennent là pour quelques jours, ils montrent leurs produits aux habitants, et donc ça crée des nouveaux débouchés, ça renforce la solidarité locale, la résilience, donc c'est vraiment, ça fonctionnait très bien.
C'est un chalet mobile, c'est ça?
Oui, l'idée pour nous, c'est qu'il est au parc de la mairie, la plupart du temps, mais si on veut faire par exemple pour les brocantes qu'on peut faire dans des quartiers, on pourrait le déplacer se dire on peut le mettre au parc, au niveau de la salle des reins ou rue de Paramé, s'il y a une brocante rue de Paramé. Voilà, c'est vraiment ça peut servir de manière générale à toutes les animations qu'on peut faire. Là par exemple on a refait le stade Robert Dubois l'an dernier, et on avait réaménagé le petit terrain synthétique sur le côté en espace de fitness, et donc on s'est dit il y a tous les habitants qui se sont dit c'est dommage que ça soit seulement espace de fitness, ça pourrait aussi pour y avoir des bancs, des tables pour accueillir aussi un peu intensifier ses usages, on va dire. Donc voilà, aussi une proposition de tyrolienne pour les enfants, une table d'orientation pour un peu mieux découvrir le paysage de l'Oise. Et enfin, la dernière catégorie, ça va être tout ce qui est mobilité durable. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que l'an dernier, la mobilité, ça représentait un projet sur les 19 qui étaient proposés. Et là, résultat concret de la concertation sur les mobilités douces qu'on a organisée l'an dernier avec le schéma directeur qu'on est en train de préparer. Vraiment, les habitants se sont saisis du sujet, ont eu plein d'idées, et donc ont proposé des idées aussi diverses que par exemple un radar pédagogique sur les hauts de Marny au niveau de l'entrée de la ville, mais aussi des abribus, une borne d'autoréparation pour son vélo, un circuit d'éducation en sécurité routière. Ça, c'est un gros projet. C'est notre projet le plus cher, avec 50 000 euros. Il faut poser de l'enrobé, aménager des espaces verts, mettre des panneaux, et ça c'est vraiment un très gros projet, très intéressant. Moi je me dis que les parents vont se mobiliser là-dessus, parce que on a beaucoup de demandes justement des parents pour apprendre à faire du vélo avec leurs enfants, et en apprenant les gestes de sécurité routière. On a un abri vélo, on a des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Alors ça, c'est aussi, je trouve, un beau projet. C'est un projet qui finalement ne coûte pas très cher, parce qu'on le fait en partenariat avec le SE60, qui est un syndicat mixte sur la fourniture d'énergie de l'Oise, et qui en fait subventionne ces projets à 75%. Donc en fait, ça nous revient à 3 000 euros pièce. Donc le coût de base, c'est 12 000 euros. Et donc avec le porteur d'idée, on s'est dit, vu que le prix n'est pas très cher, on peut en faire 5 dans toute la ville pour développer la mobilité électrique dans toute la ville. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule borne qui est au niveau du parking de l'église, qui fonctionne d'ailleurs très bien. C'est l'une des bornes qui fonctionne le plus dans l'Oise. Mais on s'est dit, si c'est présent dans toute la ville, les gens vont avoir envie de passer à mobilité électrique. Et on en voit l'intérêt en ce moment avec le prix de l'essence qui explose. Voilà, il y a aussi un aménagement de passage piéton. Un habitant qui a eu l'idée d'acheter un véhicule électrique pour le service technique. Il me dit, oui, effectivement, la loi nous y oblige. On est obligé d'acheter maintenant des véhicules électriques de plus en plus pour nos services. Mais c'est vrai que cette transition peut prendre du temps vu le coût assez prohibitif de ces véhicules. Et donc, un habitant s'est dit, on va vous aider en proposant un projet. Et c'est vrai que on est sur un petit véhicule, véhicule de voirie pour les déchets verts, pour faire la logistique. C'est 36 000 euros quand même. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur, ce genre de coût, même pour une collectivité. Hein, parce que si on l'achète en diesel, comme on faisait d'habitude, on en est à 25 000 euros. Donc, c'est quand même un surcoût. On pourrait le faire, mais c'est vrai que c'est bien aussi ce genre de démarche de proposer le changement à la mairie directement.
Toutes ces propositions, le système de vote, etc., ça passe beaucoup par le numérique, ça passe beaucoup par Internet en fait. Finalement, il y a peu de rencontres entre les citoyens.
Oui, c'est vrai que c'est l'un de nos grands regrets, c'est quelque chose sur lequel on voudrait travailler. On avait notamment essayé d'organiser un forum en janvier pour que les habitants puissent venir à la rencontre des porteurs d'idées, amender les idées pour les faire progresser, avoir des propositions déjà plus concrètes tout de suite, ou en tout cas qui correspondent mieux aux attentes des habitants. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné parce que c'est surtout des porteurs d'idées qui sont venus pour discuter entre eux. On a eu quand même une vingtaine de personnes, mais il y avait aussi une reprise du virus avec Omicron qui se diffusait à ce moment-là. Donc c'est vrai que nous on s'inspirait de ce qui se fait dans d'autres villes comme à Grenoble, où ils font un forum qui rassemble vraiment des centaines de personnes qui viennent, qui discutent, qui rencontrent les porteurs d'idées, un peu comme une foire où y a des stands, chacun parle et ça permet d'améliorer les projets concrètement. Bon là ça n'a pas pris, mais je pense que c'est aussi une question de donner confiance aux habitants aussi sur le fait que le budget participatif c'est pas quelque chose, c'est pas une opération de communication, que derrière il y a du concret et que les projets se réalisent vraiment et que c'est pas la mairie qui contrôle. Il faut vraiment réapprendre que les habitants peuvent vraiment proposer des idées et les voir se réaliser pour peu que les autres habitants soient d'accord avec ces idées.
Ça représente combien à peu près le budget participatif de la mairie de Marny-lès-Compiègne, de son budget d'investissement ?
Alors, l'investissement à Marny, ça va être à peu près 4 millions d'euros par an. Donc là, vous voyez, si on fait le ratio, ça fait à peu près 4%. C'est beaucoup. Quand on compare avec la plupart des autres communes qui font un budget participatif, elles sont plutôt sur 1 ou 2% de leur budget investissement. Alors en fait, l'indicateur qui fonctionne bien là-dessus, c'est plutôt le si par rapport à la population. Marny, on est à peu près à 8500 habitants. Donc vous voyez, là, on est à 18 euros par habitant. La moyenne en France, c'est 4,50 euros par habitant pour les budgets participatifs. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est plutôt sur 1% de l'investissement. Donc là, il y a vraiment une volonté forte de la commune de soutenir le dispositif, de faire quelque chose qui soit ambitieux, qui permette vraiment aux habitants de proposer des idées qui peuvent être un peu plus coûteuses que ce à quoi on peut s'attendre et qui permettent vraiment de transformer la ville.
Comment vous expliquez alors que peu de citoyens votent, parce que l'année dernière vous étiez à peu près 500 votants sur 8500 habitants?
Oui, à 8500 habitants, mais sur la liste électorale, on est 5000. Donc déjà, il faut prendre vraiment le bon indicateur.
Justement, qui peut voter ? Est-ce qu'on doit obligatoirement faire partie des listes électorales ?
Non, pas du tout. C'est en fait les mêmes conditions que pour ce que je vous ai indiqué. Il faut avoir 15 ans, vivre à Marny ou avoir une entreprise ou une association sur Marny. Potentiellement, la population éligible, c'est plutôt 7000 habitants. Mais on sait à Marny qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, beaucoup d'étrangers, de gens qui sont là ici de passage. Notamment, je m'étais rendu compte que le foyer des jeunes travailleurs qui allait des Roches de Picardie n'est pas inscrit sur les listes électorales. Il y a 120 personnes personnes qui y habitent, et il n'y en a que 6 sur les listes électorales. Donc là, on sait que du coup, mais c'est des gens qui sont là de passage. Tout comme il y a beaucoup de résidences près de la gare où ce sont des gens qui sont là pour quelques mois, pour un travail, et qui repartent après, une formation. Hein. Les étudiants de l'UTC habitent aussi beaucoup à Marny. Donc on sait qu'on a toute cette population qui ne s'inscrit pas sur les listes électorales parce que soit elle n'a pas la nationalité française, soit elle est là pour très peu de temps. Et donc... Mais donc, du coup, elle ne voit pas l'intérêt de faire ça. Finalement, c'est une population qu'on a énormément de mal à attraper. De toute façon, en sociologie de la participation, on sait que toute la population entre 16 et 25 ans, c'est très compliqué de l'attraper. Même le conseil qu'on nous donne généralement, c'est de même pas essayer de l'attraper, parce que soit elle a envie de venir et elle va venir naturellement, soit elle n'écoutera même pas nos messages. Donc il y a tout cet effectivement, c'est pour ça que toute cette population qui n'y participe pas. Et moi, dans les statistiques que j'ai fait sur ces 500 personnes qui ont voté l'an dernier, je me suis rendu compte que 50% des gens qui ont voté avaient entre 30 et 50 ans. Le public qui participe, c'est vraiment le public familial, ceux qui commencent à se poser dans leur vie, qui ont une stabilité, qui ont des enfants, qui se disent comment je pourrais améliorer la vie de mes enfants, comment je pourrais quels sont les parcs à côté de chez moi, les écoles, les associations, et du coup ils se disent ça c'est un bon moyen pour moi d'améliorer les chances de mes enfants.
Alors les magnétins qui votent doivent choisir entre 2 à 4 projets maximum sur les 21. Au final, combien de projets pourront être retenus ?
Je ne peux pas vous répondre là-dessus. L'an dernier, il y avait 19 projets, il y en a 12 qui ont été retenus. Là, ça dépendra aussi des projets qui sont retenus. Si le projet de circuit d'éducation à sécurité routière passe, c'est un projet à 50 000 euros. Ça veut dire déjà que les autres projets ont moins de chances de passer parce qu'on choisit, on retient les projets en fonction de leur coût jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'on ait atteint l'enveloppe maximum des 150 000 euros. Donc, si on a un projet à 50 000 euros qui passe et après on a un projet à 20 000, 3 projets à 20 000 euros qui passent, tout de suite on en aura peut-être que 7 ou 8, mais en fait après c'est pas grave. Là on a deux projets qui sont là, qui étaient des projets qui étaient déjà présentés l'an dernier, donc il y a des projets qui reviendront l'an prochain. C'était juste question d'opportunité, c'était pas le bon moment, mais on a des exemples d'autres villes qui font des budgets participatifs où des projets sont présentés pendant 3 ou 4 ans avant d'être sélectionnés.
Tout à l'heure, vous avez abordé un petit peu les projets qui ont été réalisés de l'année dernière. Il en reste encore quelques-uns, c'est ça, à être réalisé ?
Oui, c'est ça. Alors, notamment, on a le projet de rayon jeu à la médiathèque Jean Moulin qui va être inauguré le 14 mai. Donc ça va être un moment festif où vraiment qui va être très bien parce qu'on a profité de ce projet pour vraiment créer un nouveau rayon à partir de rien, donc avec un fond de 130 jeux, et c'est vraiment ça va être un très beau rayon parce que les médiathèques n'ont pas l'habitude d'avoir un tel budget pour acquérir des nouvelles œuvres. Donc là ça va être quelque chose où on a proposé une offre complète à destination aussi bien des tout-petits, des familles et puis des joueurs un peu plus exigeants pour que chacun y trouve son compte et puisse bénéficier des jeux qu'il a envie de trouver, mais des jeux vraiment reconnus pour leur qualité aussi, pour avoir une offre de jeux qu'on n'a pas forcément envie d'acheter parce que des jeux narratifs, des jeux à scénario, des jeux qui s'épuisent très vite, mais qui sont quand même des jeux de qualité. On a aussi le projet de sentier ethnobotanique, de remise en état du sentier ethnobotanique, qui était le projet qui était arrivé en tête. Alors ça, ce projet devrait être achevé dans le courant du semestre. Il y a eu différentes péripéties par rapport à ce sentier.
Problème de propriété, c'est ça ?
C'est ça, problème de propriété foncière sur le chemin, et donc il a fallu acquérir une petite parcelle pour le sécuriser. Voilà, ça va se mettre en œuvre et ça va être très bien aussi. Du coup, ça va être l'idée pour nous, c'était aussi du porteur d'idées, d'avoir un parcours de balade pour se dire où est-ce que je peux aller à Marny pour être plus proche de la nature. Et c'est un besoin qui s'est révélé aussi à l'occasion du confinement, où du coup les gens se sont dit j'ai envie de me balader dans mon kilomètre, qu'est-ce que je fais. Et là ils ont redécouvert tous les jardins sur les Hauts-de-Marny, tous les petits chemins naturels qui étaient un peu à l'abandon. Et donc, c'est comme ça que ce besoin a émergé. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce projet est arrivé largement en tête de la première édition.
Les travaux vont commencer quand à peu près ?
Il faut encore qu'on finalise cette acquisition. Et après, on va avoir la construction d'un escalier en haut de la rue des Gouttes d'Or. Il y a déjà une sorte d'escalier, mais c'est plutôt une rampe et c'est pas très sécurisé. Donc, on va remettre ça en état. Et puis, on va poser des petits poteaux pour signaler les parcours, mettre des panneaux pour vraiment rappeler les différents parcours possibles. Et, peut-être aussi planter un peu de quelques arbres ou des haies pour faire la séparation avec les parcelles agricoles. Enfin, voilà, il y a différentes choses qui vont intervenir. Là, bon, les haies sera peut-être plutôt en fin d'année. C'est pas la bonne période maintenant pour planter. Mais voilà, ça va être mis vraiment en état au cours de l'année.
Où est-ce qu'on peut voter ?
Alors, il y a le principal endroit pour voter, c'est le site internet dédié. Donc, ça s'appelle www.jeparticipe.marny-compiègne.fr, qui est une plateforme qu'on a mise en œuvre avec un partenaire dédié à ça. Et donc c'est vraiment l'endroit privilégié pour voter parce que là-dessus vous avez le récapitulatif des 21 projets avec le détail et aussi l'explication du coût. C'est vrai que ça c'est un détail dont on a beaucoup parlé l'an dernier. Par exemple, l'an dernier il y avait le projet de ping-pong et les gens ne comprenaient pas qu'une table de ping-pong ça puisse coûter 7000 euros. Et parce que les gens se disent moi j'achète la table de ping-pong chez Decathlon et elle coûte 500 euros et c'est réglé. Mais en collectivité, on ne fait pas comme ça. C'est un peu plus cher, il faut l'aménager, il faut la sécuriser. Bon, et c'est pour ça qu'on arrive des fois à des coûts assez élevés. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment l'endroit idéal pour voter parce qu'on sait vraiment pourquoi ça coûte aussi cher certains projets. Sinon, on peut voter par papier dans toute la ville. Donc on a disposé une douzaine d'urnes dans toute la ville. Alors, d'abord, évidemment, à la mairie, à la médiathèque et au CCAS. Donc les trois services publics les plus utilisés par les habitants. Mais aussi dans des commerces partenaires. Donc dans toutes les boulangeries de Marny, dans des supérettes. Puis aussi, il y a un restaurant, il y a un salon de coiffure. Voilà, donc vous allez chez vos commerçants locaux et vous pouvez voter là-bas. Donc ils sont au courant, ils peuvent un peu présenter les projets. Donc l'idée pour nous c'est vraiment évident de travailler avec le commerçant parce qu'on est sur du développement local. Il faut pouvoir voter et en discuter avec les premiers acteurs du développement local qui sont les commerçants.
Et on le rappelle, c'est un peu le budget participatif, c'est une élection un peu particulière. On peut voter à partir de 15 ans et même les étrangers peuvent aussi voter.
Oui, effectivement, c'est vraiment tous les habitants de Marny qui peuvent voter à partir du moment où ils habitent Marny. C'est vraiment pas besoin d'être inscrit sur les listes électorales. Et c'est vraiment, nous, c'est aussi quand même l'un de nos objectifs de développer le vote, comme j'ai dit tout à l'heure, de ces personnes qui sont un peu éloignées des élections. Parce que se dire que c'est pas parce que je suis à Marny pour peu de temps ou que je suis pas français que je peux pas m'impliquer dans le développement de ma collectivité. C'est vraiment se réapproprier, se dire je suis là et c'est important pour moi.
Quand est-ce qu'on connaîtra les résultats ?
Alors on va faire le dépouillement le 30 mars. Et donc, on va dévoiler les résultats le 1er avril. Donc, on a prévu une cérémonie avec des porteurs d'idées et les habitants pour montrer ces projets. Puis, ça sera aussi l'occasion de refaire le point sur le budget participatif de l'an dernier.
Quand est-ce que commenceront les projets qui auront été retenus ?
Ça dépendra de la complexité des projets, mais il y en a certains où en fait c'est une commande à passer en fonction des stocks des fournisseurs, je pense que la réalisation va commencer dès le mois de mai. Hein.
Ok, merci beaucoup.
Merci Radio Graphite.
Pour plus d'informations sur le budget participatif de Marny-les-Compiègne ou pour voter en ligne, rendez-vous sur le site jeparticipe.marny-les-compiègne.fr. Le vote est ouvert jusqu'à dimanche inclus. Côté culture, ce soir c'est le week-end et c'est aussi le dernier moment d'aller visiter l'exposition Vitesse au château de Compiègne. Des voitures et motos de collection sont exposées à l'intérieur du château, dont la première Ferrari à avoir remporté les 24 heures du Mans. Une exposition atypique à retrouver jusqu'à dimanche. À Compiègne toujours, certains d'entre vous ont peut-être prévu d'aller voir le Lac des Cygnes au Théâtre Impérial. L'événement est très attendu puisque la salle affiche déjà complet pour les deux représentations depuis plusieurs mois. Demain soir, une soirée portugaise est organisée à Tourotte. L'artiste Mike da Gaita animera la soirée et le groupe 25 Avril fera la première partie à la salle Louis Aragon. Une buvette et un snacking sont prévus sur place. Pour plus d'informations, contactez le 07 66 84 06 33. 07 66 84 06 33. Et on termine ce journal par la météo. Le soleil est toujours au rendez-vous. Il fera 9 degrés ce matin à Compiègne et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur l'ensemble du département. On se quitte sur un morceau du groupe Lyon en concert demain soir à 20h30 au Caméléon à Conchy-les-Pots. Il s'appelle « Je veux danser ». Quant à nous, on se retrouve demain en direct dans le journal de 8h30. Très belle journée sur Graphite.
Au 27 mars, rendez-vous à Beauvais pour la 27e édition du festival Le Blues autour du Zinc. Au programme, 10 jours de concerts dans les bars et les salles de spectacle de Beauvais avec Morkeba, Nina Attal, The Brooks, Melvin Taylor, Jesse Lee and the Alchemists, Feu Chatterton et bien d'autres. Blues autour du Zinc, c'est du 17 au 27 mars à Beauvais. Infos et réservations sur zincblues.com.